Chapitre 52. Piccadilly Circus, Londres. La porte de la salle de bain claqua derrière Lilio et Cléo.
« Pas la peine d'activer vos TPC !» poursuivit la voix dans leur dos. « Je pense que le bureau d'investigation criminelle a rendu tabou l'appartement de ce pauvre Elias Kiberville. »
Cléo n'arrivait pas à se retourner. Ses yeux restaient bloqués sur le cadavre d'Elias, sur ses yeux exorbités, sur la longue tranchée sanglante sous sa carotide, comme si sa tête, tordue en arrière, en équilibre sur la faïence de la baignoire, allait finir par se décrocher. Vomir, hurler. Dans un brouillard de coton déformant chaque son, Cléo entendit Lilio répondre.
« Qui êtes-vous ? »
La main du journaliste recherchait la sienne. Elle était moite, tremblante, celle d'un enfant s'accrochant à la main d'un adulte, de sa mère, de sa grande sœur. Lilio n'était plus qu'un petit garçon perdu. Cléo détacha lentement les yeux du cadavre, se retourna. Elle connaissait l'homme devant eux. Elle le reconnaissait au moins. C'était l'homme qui, sur les pentes de l'Himalaya, les avait jetés dans le précipice. Celui qui avait abattu Tan Prao d'un tir de fusil. Le tueur serrait dans son poing un couteau ensanglanté, un Perceval, cette marque luxueuse qu'Elias appréciait. Sur la lame, du sang frais. Ce monstre l'avait égorgé avec son propre couteau de cuisine.
« Qui êtes-vous ? »
répéta Lilio. Un maigre filet d'autorité durcissait sa voix. Les efforts du journaliste pour dissimuler sa panique paraissaient pourtant dérisoires. Le tueur face à eux semblait aussi affecté par le cadavre d'Elias gisant dans la baignoire qu'un plombier appelé pour régler un problème de lavabo bouché.
« Qui je suis ?»
Un sourire presque étonné s'afficha sur le visage du tueur blond.
« Un soldat, je crois, un simple soldat, à qui l'on a confié une mission. Je me contente de l'exécuter. Un contrat, si vous préférez, qu'on m'a proposé contre une remise de peine.
C'est exactement cela, une remise de peine, pour bonne conduite. » Le tueur observa un instant la lame de son Perceval, comme s'il s'agissait d'un banal outil de travail.
« Vous voyez, je ne suis pas un monstre, si on me récompense pour bonne conduite. Qui puis-je, si cette bonne conduite, si la mission qu'on me confie, c'est de tuer ces retraités allemands sur l'atoll de Tetamanou, puis d'éliminer ce trafiquant, Tan Prao, et puis de faire taire ce jeune architecte. Puis vous, maintenant ?»
Un frisson parcourut Cléo, de sa nuque au bas de son dos, et elle savait que le même courant de terreur électrocutait Lilio. Ils mourraient ensemble, main dans la main, foudroyés par le même éclair. Les yeux du tueur, sans cesse en mouvement, semblaient vérifier que Lilio et elle étaient bien désarmés, que le cadavre d'Elias n'allait pas se relever, qu'il n'existait aucune entrée secrète dans la salle de bain et surtout que personne ne pouvait se téléporter à proximité. Rassuré, il sourit à nouveau.
Dire que tout le monde me prend pour un fantôme. Les policiers du bureau d'investigation criminelle m'ont surnommé Khan, le cyborg de Star Trek.
Je crois que tout ceci n'est qu'un vaste malentendu.
On me prend pour l'ennemi terrien numéro un alors que je suis juste un électricien, capable de bricoler des antennes relais et tomber amoureux, pendant ma longue détention, des modes de transport anciens.
Pour le reste, je vous l'ai dit, je me contente d'obéir aux ordres.
« Vous allez nous tuer ?» fit Lilio.
La main du tueur se crispa sur le manche du Perceval. Sa froideur de fonctionnaire à peine concerné par son boulot pétrifiait Cléo. Ses yeux, malgré elle, s'aimantaient sur la lame brillante du couteau, sur le sang chaud qui en coulait, sur... Sans lâcher la main de Lilio, elle se retourna. Elle n'aurait pas dû. Elias avait continué de se vider. Son visage était aussi pâle que les carreaux de faïence. Un morceau de viande saigné à blanc, tel ces moutons qu'on sacrifiait au temps d'avant, dans ces religions barbares oubliées. Elle n'arrivait pas à croire qu'Elias soit mort, ainsi assassiné. Dans le monde où elle était née, toute violence avait été éradiquée. Elle se souvenait du petit Elias à 8 ans, à 10 ans, à 13 ans, assis derrière la même table d'école, jouant dans la même cour de récré, si fragile, si douillet. Il s'était évanoui une fois en classe, un matin, où il s'était percé le doigt avec la pointe d'un compas. Cléo se mordit les lèvres. C'était si ridicule de penser à ça. Mais à quoi penser ? À quoi occuper son cerveau quelques minutes avant de mourir ?
« Non,
répondit enfin le tueur sans quitter des yeux Lilio. « J'ai ordre de tuer la fille, pas vous. On m'a demandé de vous laisser filer, sauf si vous résistez. » La main de Cléo serra plus fort encore celle de Lilio. Plus personne ne prononçait un mot. Personne ne bougea. Le tueur, comme surpris que le journaliste n'ait pas déguerpi, précisa « La zone taboue couvre une surface d'à peine 200 mètres autour de l'appartement. De Castro, si vous courez vite, dans moins d'une minute vous en serez sorti. Au prochain croisement, après Piccadilly, vous pourrez vous téléporter n'importe où sur la planète. » La main de Lilio lâcha celle de Cléo. Elle ne chercha pas à la retenir, sa main était morte déjà. « Qu'allez-vous faire d'elle ?» demanda le journaliste avec détermination. « La tuer ? Elle mourra de toute façon. À vous de décider si vous voulez l'accompagner. » Le tueur leva de quelques centimètres le couteau ensanglanté et se décala d'un mètre pour dégager le passage devant la porte. Vision d'horreur. Lilio hésitait. Pire horreur encore. Puis sans un mot, surtout sans regarder Cléo, il franchit la porte de la salle de bain et se mit à courir dans le grand appartement. Ses pas résonnèrent longtemps en écho dans les pièces vides.
« Pas très courageux, votre ami !»
commenta le tueur tandis que le silence effaçait toute trace de la fuite du journaliste.
« Presque moins que l'autre, celui dans la baignoire. Tout à l'heure, quand je l'ai surpris dans la salle de bain et que je lui ai demandé où vous étiez, je l'avais à peine chatouillé qu'il m'avait donné votre adresse. Vous n'aimez que les hommes lâches. »
Tout se brouillait dans la tête de Cléo. Lilio n'avait fui que pour mieux revenir. Le tueur s'avança, couteau de cuisine pointé devant lui, conscient que désormais, il ne devait pas traîner. La fuite de Lilio était une feinte. Il allait prévenir les secours. Cléo se recula. Ses jambes furent arrêtées par le carrelage froid de la baignoire. Elle sentit la main glacée d'Elias caresser le bas de son dos. Aucune place pour se cacher. Lilio allait forcément surgir. La lame n'était plus qu'à 2 centimètres de sa gorge. Tout se mélangeait dans ses pensées affolées. Non, Lilio n'allait pas revenir. Il avait un rôle à jouer dans le destin de l'humanité. Il avait de quoi nourrir sa bonne conscience. Il ne pouvait pas tout gâcher pour une femme aussi insignifiante qu'elle, se sacrifier, se... La voix du tueur se brouillait, tel un cauchemar auquel on ne peut pas croire. « Vous avez beaucoup plus de cran, mademoiselle Loisel, que les hommes que vous choisissez. » Lilio était forcément là, tapis dans la pièce d'à côté. Il s'était approché en silence, armé. Elle appuya nerveusement sur son TPC qui refusait obstinément de fonctionner. Le couteau s'éleva à la hauteur de ses yeux. Elle pouvait lire la marque sur la lame, Perceval, accompagné du poinçon, un P en forme d'épée, une fortune d'ivoire et d'argent. N'importe quelle femme aurait rêvé que de telles pièces d'orfèvrerie figurent sur sa liste de mariage. Maman aurait été si fière si Elias l'avait épousée. Le couteau se posa sur sa gorge. « Reviens, Lilio, » pensa Cléo en fermant les yeux. « Reviens maintenant. » Lilio, à bout de souffle, atteignait le croisement de Coventry Street et de Haymarket. Des centaines de passants apparaissaient, disparaissaient. Il était sorti de la zone taboue. Il était sauvé. Épuisé, mais sauvé. Une douleur fulgurante l'avait fauché en pleine course. Un point de côté. Il avait dû s'arrêter. La crampe l'empêchait de penser à autre chose, de réfléchir, d'hésiter, de culpabiliser, de se retourner. Le journaliste se contenta de consulter l'heure au cadran de Big Ben en direction de St. James Park, 10h45. Dans un peu plus d'une heure, les assignés commenceraient à se téléporter dans 97 lieux différents dans le monde. Cette journée resterait dans l'histoire. Cette journée dont il était à l'origine, dont il devait être un acteur. Plus tard, il y aurait un temps pour les regrets, pour les hommages, pour les dommages. Le destin de l'humanité est un torrent contre lequel on ne peut pas lutter. Chacun coule ou surnage. Au carrefour de Coventry Street et de Rupert Street, Lilio appuya sur son TPC et disparut. Personne ne s'en aperçut. La lame du poignard était collée contre son cou, plaquée si serrée que le P du poinçon gravé s'imprimait sur la peau de son cou. Du moins, Cléo l'imaginait. La morsure froide du couteau bientôt se transformerait en crocs d'argent, plantés dans sa chair. Est-ce qu'elle ressentirait la chaleur du sang expulsé en geyser de son artère carotide? Ses jambes ne la portaient plus. Elle s'était assise sur la faïence écarlate. Elle allait mourir ainsi, basculer, rejoindre Elias dans le même bain pour une noce de sang. Pas dans 21 ans.
« Je suis désolé, » murmura le tueur à son oreille. « Je vais peut-être un peu vous faire mal avec cette lame de boucher. D'ordinaire, avec mon santoku, les gens ne souffrent pas, mais une flique s'est envolée en l'emportant. »
La lame entaillait la peau de Cléo. Une voix gronda dans le dos du tueur.
« Le voici, je vous le rends !»
Le tueur se retourna en un réflexe d'une rapidité stupéfiante, esquissa le geste de lancer son Perceval en aveugle, droit en direction de la voix. Il ne fut pourtant pas assez rapide. Une main accrochait déjà son poignet et le désarmait, alors qu'une autre, vive et précise, celle portant le santoku, fendit l'air et, d'un geste sec, sans sommation ni hésitation, trancha le poignet droit de Cap. Cléo hurla. La main tomba sur le tapis de bain, aussi flasque qu'un gant de latex. Le TPC, encore accroché au poignet tranché, glissa doucement dans la mare de sang. Victor Cap se recula, écrasant son dos contre la porte vitrée de la douche, livide, résistant à l'évanouissement en roulant des yeux hallucinés. Son agresseur était trop fort, trop déterminé. Cap fixait le santoku entre les mains de l'homme qui venait de le mutiler. Le regard du tueur, vaincu, soumis, ressemblait à celui d'un enfant puni, obsédé par un jouet confisqué et qu'il n'oserait pas réclamer.
« Commandant Akinis ?»
Cléo tremblait, nuque glacée, front brûlant, cerveau balayé par un tremblement de terre et corps entier agité par les répliques. Elle haletait, suffoquait, mais respirait. Elle comprenait qu'elle était sauvée. Elle reconnaissait l'homme qui venait de surgir dans la pièce pour désarmer le tueur, l'amputer de son TPC avant même qu'il ait pu le toucher. Le policier, celui qu'elle avait croisé dans la favela de Rio, qui lui avait tendu une main qu'elle n'avait pas saisie. Qu'elle avait croisé au Kazakhstan aussi, à l'ombre du bateau échoué dans le désert d'Aralkoum. Cet homme était-il son ange gardien, rattrapant à lui seul la lâcheté de tous les autres terriens? De tous les autres hommes, au moins. Le commandant Akinis lança à Victor Cap une serviette de bain pour qu'il puisse entourer son moignon.
« Je devrais vous tuer, » fit Artem, « pour venger le meurtre de mon meilleur ami, le lieutenant Babou Diop, et pour tous les autres meurtres que vous avez commis. »
Victor Cap ne répondait pas, abattu alors qu'il se croyait invincible. « Il ne mentait pas, » pensa Cléo, quand il disait qu'il n'était qu'un soldat. Un soldat qui avait échoué, et désormais aussi perdu qu'un robot dont le processeur a grillé.
« Nous sommes pressés, Cap. La nouvelle Babel va être lancée dans une heure, je vous conseille de parler. Pour qui travaillez-vous ? »
Victor Cap ne réagit pas davantage. Il n'était plus qu'un pion muet, un chien fidèle jusqu'au bout qui ne se retournerait pas contre son maître. Le commandant jeta un regard à Cléo à peine une seconde. Un trouble la traversa sans que le policier n'ait besoin de lui parler. Cléo ressentait une fierté stupide, ainsi coincée entre le cadavre d'Elias et ce tueur mutilé. Cet homme, ce commandant de police, depuis 2 jours n'avait eu qu'une obsession, la sauver. Lui se foutait de l'humanité, elle seule comptait. « Délire post-traumatique, ma vieille, » songea-t-elle en souriant mentalement.
« Vous avez 5 minutes, » annonça le commandant en fusillant à nouveau Victor Cap du regard. « Ensuite, je vous abats. Le président Nemrod lui-même m'a donné l'ordre de vous tuer. Ne me tentez pas !»
D'un coup, la raideur militaire de Victor Cap céda, sans qu'Artem ne comprenne pourquoi. Il ne croyait guère à l'effet de ses menaces et encore moins à son compte à rebours. « Vous avez 5 minutes, ensuite je vous abats. » Pourtant, les yeux du tueur venaient de se brouiller. Une digue, un mur de sa défense mutique cédait. Artem rembobina dans son cerveau les mots qu'il venait de prononcer. « Le président Nemrod m'a donné l'ordre de vous tuer. » Victor Cap toussa, signe qu'il acceptait de parler. La serviette verte recouvrant son poignet était gorgée de sang violacé.
C'est Nemrod qui vous a envoyé ici ?
Demanda le tueur.
Oui, en coordination avec l'Organisation mondiale des déplacements et le Bureau d'investigation criminelle. L'appartement d'Elias Kiberville était surveillé. Nos services ont repéré Lilio de Castro et Cléophée Loisel dès qu'ils se sont téléportés devant la porte du 47 Regent Street.
On les a laissés entrer et on a aussitôt rendu la zone taboue pour qu'ils ne puissent pas s'échapper. Mais vous, j'ignorais que je vous trouverais ici.
« Nemrod, » répondit Victor Cap. « Nemrod, lui, le savait. »